France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour Mazette, quelle musique ! Deuxième dimanche du mois, consacré donc aux stars de notre panthéon musical. Thème de notre émission d'aujourd'hui, Brahms, son oreiller et le hérisson rouge. Installons-nous bien confortablement, c'est parti.
Thank you.
Gestillte Sehnsucht, un lied pour contralto, piano et alto obligé de Brahms, bien sûr. Gestillte Sehnsucht, ça veut dire nostalgie apaisée, plongée dans l'or du crépuscule, dans la brise légère du soir, que murmurent le vent et les oiseaux. Au monde, doucement, ils chantent une berceuse, à quand le repos, à quand le sommeil, repos de mes désirs et de ma vie. L'or du crépuscule provient ici d'une alchimie entre la voix grave de la femme, celle de Kathleen Ferrier, et le timbre langoureux de l'alto, dialogue entre les deux qui est accompagné par un piano tout en arpège. Brahms vient d'avoir 50 ans, sa musique est la mélancolie incarnée à fleur de peau, l'apparence est d'une grande simplicité, on y retrouve le naturel, le don, la force, la profondeur qui enthousiasmèrent 30 ans plus tôt Clara et Robert Schumann lorsqu'ils virent arriver Brahms, tel un jeune dieu blond aux yeux bleus. Dans la Nouvelle Gazette Musicale, Robert Schumann écrit « Il est venu cet élu, au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé. Son nom est Johannes Brahms, il vient de Hambourg. » Et quant à Clara Wieck, épouse Schumann, ses relations avec Johannes Brahms depuis cette première rencontre en 1853 jusqu'à leur mort, à quelques mois de distance, Clara en 1896 et Brahms en 1897, et en passant par les ultimes épisodes de la folie de Robert Schumann et de sa mort en 1856, eh bien ces relations furent intenses, passionnées, amicales et amoureuses, et au-delà, eh bien au-delà, laissons les experts expertiser. Dans les testaments trahis, Milan Kundera l'a brillamment observé, non sans une pointe de machisme d'ailleurs. Les biographes ne connaissent pas la vie sexuelle de leur propre épouse, mais ils croient connaître celle de Stendhal ou de Faulkner, ou de Brahms ou de Schumann. Revenons au lied de Brahms, nostalgie apaisée. Sa simplicité trompeuse résulte en fait d'un art très sophistiqué, très exigeant, pour les trois interprètes d'ailleurs, notamment dans la tenue de la ligne très longue de l'alto et de la contralto. Et par cet art sophistiqué, le compositeur, qui est dans sa pleine maturité, se livre une fois encore, et ce n'est pas la dernière, comme un maître dans cette esthétique de la nostalgie, du crépuscule, du repos, de la berceuse. Que murmurent le vent et les oiseaux, au monde doucement ils chantent une berceuse, à quand le repos, à quand le sommeil. Allez, n'y résistons pas, prenons un oreiller, couchons-nous, allongeons-nous bien confortablement.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Grand Dieu, voilà les Dupont en pyjama maintenant.
Mais c'est normal, on nous a dit qu'il fallait aller se coucher.
Mon collègue et moi, nous détestons dormir tout habillés.
Mais mille sabords, il ne s'agit pas de dormir. Et crème dents plâtre à la graisse du hérisson.
Ne vous en faites pas, capitaine. On parlera du hérisson plus tard. Un oreiller, c'est pas un objet musical en soi. On peut évidemment taper dessus, voilà, comme ça. Voilà, ça n'est pas un son très intéressant. Alors, attention tout de même, parce que il faut vraiment faire attention aux oreillers pour deux raisons au moins. D'abord, ça peut être très dangereux, un oreiller. En 1919, Béla Bartok achève la musique du Mandarin merveilleux, un ballet pantomime. Trois malandrins qui ont forcé une jeune fille à attirer le client se jettent sur le troisième client, un mandarin un peu bizarre. Il le dépouille de son argent et de ses bijoux, et puis il l'étouffe sous l'oreiller. Quelle horrible histoire! Mais, Mazette, quelle musique!
Thank you.
L'affaire ne s'arrête pas là puisque immédiatement la tête du mandarin qui est toujours vivant sort des oreillers. Le reste de l'histoire, plutôt sordide, n'est pas pour aujourd'hui. L'oreiller est aussi le lieu du sommeil. Béni soit d'ailleurs l'inventeur de l'oreiller. Il paraît qu'il vivait entre le Tigre et l'Euphrate il y a 7 millénaires. Puis, tant qu'on y allait. Béni soit l'inventeur du lit. C'était une Égyptienne ou un Égyptien il y a 3500 ans. Et, pour tant qu'à faire, béni aussi l'Américain ou l'Européen qui a inventé le hamac beaucoup plus récemment. L'humanité doit beaucoup à ces anonymes. Voilà. Mais l'oreiller, c'est le lieu des affects, des épisodes heureux ou dramatiques. C'est le lieu des confidences, le lieu des passions, là où, comme le chant de Juliette, je veux garder pour en mourir ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs, toute votre âme sur l'oreiller.
Avant que le temps souverain et sa cruelle taquinerie n'emporte votre amour ou le mien vers d'autres cieux ou d'autres lits, je veux garder pour en mourir ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs, toute votre âme sur l'oreiller. En
1869, sans qu'il s'y attende d'ailleurs le moins du monde, Brahms apprend de Clara Schumann elle-même que c'est avec le comte Radicati di Marmorito et pas avec lui, Johannes Brahms, que la vive, très belle, pétillante Julie, la troisième fille de Clara et Robert, a décidé de se fiancer. Déception amère, très douloureuse, et si Brahms annonce à son éditeur qu'il s'est mis à composer un chant nuptial, c'est en fait avec une colère cachée et une rage rentrée, comme il le dit lui-même, qu'il écrit la rhapsodie pour contralto. Il choisit les 3 dernières des 7 strophes du Voyage dans le Harz en hiver de Goethe. Le Harz, ceux qui l'ont traversé s'en souviennent sans doute. C'est un massif dans l'Allemagne centrale, très pittoresque, des chaos rocheux, des falaises abruptes, des gorges profondes, un désert couvert de forêts qui sont les reliques de la forêt hercynienne primaire européenne. Rien de très riant donc, et surtout si on est enfoncé dans la neige, perdu dans le brouillard, battu par des vents furieux. Le poème de Goethe est une hymne magnifique qui dit le désespoir, la souffrance du solitaire, sa haine des hommes, sa haine de lui-même, dans la traversée de ce désert qu'est le Harz en hiver, mais qui est aussi sa propre existence. Comme chant nuptial, comme épithalame, on en a connu des plus gais et des plus entraînants. Mais voilà, la dernière strophe est très goethéenne. Elle dit l'espoir que la divinité, source de tout amour, réconforte le solitaire désespéré et lui ouvre les yeux sur la beauté du monde. Pour les 2 premières strophes, Brahms compose une musique aux accents dramatiques presque malériens, une musique qui n'atténue pas du tout, au contraire, l'impression de désespoir violent, de détresse absolue du solitaire qui est englouti par l'hiver et consumé par l'amour trahi. Qui guérira ses souffrances ?
Thank you.
Et c'est là qu'apparaît notre oreiller. Pour cette troisième strophe, pour dire l'espoir que la mélancolie noire, le désespoir ne soit pas la fin de tout, Brahms écrit une phrase à la beauté lumineuse, rien de mièvre, une mélodie puissante, pleine d'effusion et de consolation. Flaubert, dans La Tentation de Saint-Antoine, avait écrit « Il y a des endroits de la terre si beaux qu'on a envie de les serrer contre son cœur ». Eh bien, il n'en est pas différemment pour les mélodies les plus sublimes. On a envie de les serrer contre son cœur. Et c'est sous son oreiller que Brahms, émerveillé lui-même par ce que l'inspiration lui a dicté, c'est sous son oreiller qu'il glissa cette mélodie. S'il est sur ton psaltérion, père de tout amour, un son que son oreille puisse entendre, alors fais renaître son cœur, ouvre son regard embrumé aux mille sources proches de l'assoiffé dans le désert.
Oh,
Quelle musique! C'était Janet Baker en 1970, accompagnée par le chœur John Edlis et l'Orchestre Philharmonique de Londres, le tout magnifiquement tenu, dirigé par Sir Adrian Boult. Pour nous remettre de ces fortes émotions, faisons un petit détour par un des lieux préférés de Brahms à Vienne. Venons d'entrer dans la grande salle du café et restaurant Zum Roten Eagle. C'est une ambiance toujours très animée, il y a de la musique, notamment dans la taverne hongroise du restaurant, parfois du Brahms d'ailleurs. Nous sommes dans le centre historique de Vienne, juste à côté de l'église Saint-Pierre, à 3 minutes de la cathédrale, le Stephandom. C'est le lieu où se retrouvaient d'ailleurs Franz Schubert, Robert Schumann, Gustav Mahler, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn aussi, Johannes Brahms, on l'a dit, Anton von Webern, et puis tout ce qui compte dans le monde musical, les professeurs du conservatoire, les grands critiques, les étudiants bien sûr, plutôt dans la taverne hongroise. On y sert une cuisine robuste, bien épicée, à la viennoise, 2 plats phares, le goulash de bœuf, le bœuf pilaf, avec des spätzle, avec des knödel, les knödel. On y boit de la bière, du vin aussi, et d'ailleurs dans la cave, il y a une petite barrique du meilleur toqué de Hongrie qui est réservée à l'usage personnel de Brahms, parce que, en effet, pendant toutes ces années viennoises, de 1862 à sa mort, Brahms, qui va exercer différentes responsabilités dans la galaxie de la Société des Amis de la Musique et du Musikverein, fait du Roten Eagle son quartier général, et il décide même d'y dîner tous les soirs, sauf rare exception, quand il est à Vienne. Et c'est là, dans ce restaurant Zum Roten Eagle, qu'a lieu la rencontre historique du 25 octobre 1889 entre Brahms et l'autre grand symphoniste de l'époque, Anton Bruckner. Ils s'y croisaient, mais en faisant semblant de ne pas se reconnaître. Et puis tout d'un coup, quelqu'un a monté cette rencontre, ils ont dîné ensemble. Deux personnalités très différentes, mais que beaucoup de choses réunit finalement. Deux grands symphonistes, très perfectionnistes, tous deux issus d'un milieu plutôt de petites conditions, comme on dit, qui ont connu les tribulations et les succès d'une ascension sociale qui les mène à une reconnaissance non seulement à Vienne, mais dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Des chemins très différents, certes. Il y en a un qui a fréquenté les pianos des quartiers et des maisons chaudes de Hambourg dans sa jeunesse, c'est Brahms. Et puis l'autre a plutôt vécu à l'ombre du monastère de Saint-Florian. Ils sont tous les deux célibataires, pas du tout endurcis. Et en même temps, tout les sépare. L'un est catholique de stricte observance, issu de la campagne de Basse-Autriche. L'autre, c'est Brahms, c'est protestant agnostique, mais luthérien jusqu'au terme de son existence. Il vient du nord de l'Allemagne, du Holstein et de Hambourg. Leurs admirations musicales divergent complètement. L'un est wagnérien, c'est Bruckner. L'autre est pas du tout wagnérien, c'est Brahms. Et puis leurs entourages, notamment les critiques, les supporters, les opposent. S'y ajoutent quelques bons mots cruels qui ont évidemment été répétés. « C'est un bon musicien consciencieux, mais dépourvu de l'idée d'une idée », dit Bruckner à propos de Brahms, et qui répond « C'est un mystificateur atteint de la maladie symphonique, un pauvre fou, con sur la conscience, les ensoutanés de Saint-Florian. » Mais ce 25 octobre 1889, ils se retrouvent à la même table. La conversation porta, semble-t-il, sur la bonne chère et exclusivement sur la bonne chère, et pas sur quoi que ce soit de musical. Et lorsque Brahms commande des Svetsken Knödel, des quenelles à la prune, Bruckner s'exclame « Mais voilà un point d'accord entre nous !» Bruckner, qui était un grand sentimental, très sensuel, mettait-il des mélodies sous l'oreiller ? Question importante, la réponse n'est pas évidente. Si vous avez en tête que Bruckner, c'est plutôt ça, évidemment. « Magnifique et impressionnant début du scherzo de la 9e symphonie. C'est le dernier mouvement qui a été achevé par Bruckner. Il faut admettre que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir ça sous son oreiller. Mais si c'est le sublime début de l'adagio très solennel de la 7e symphonie, alors je ne dis pas non. Cet adagio incomparable fut écrit au moment où Bruckner pressent avec une grande douleur la mort prochaine de Wagner, son maître très admiré. La première phrase très ample, plus d'une minute, est un peu sombre, elle est confiée aux cordes soutenues par les quatre tubas wagnériens, et puis on entend une citation avec beaucoup de tendresse, pianissimo, du thème du In te domine speravi, du Te Deum que Bruckner vient de composer quelques mois auparavant. Et puis enfin, c'est le second thème, plus lumineux, joué par les cordes, doublé par les hautbois et clarinettes. C'est une musique saisissante, puissante, ardente, d'une grande douceur, pleine d'effusion à mettre sous l'oreiller. Aurais-je oublié de vous dire qu'en allemand, Zum Roten Igel, ça signifie « au hérisson rouge ». Pourquoi rouge, je ne sais pas vraiment. À vrai dire, la Hulotte, vous savez, le célèbre journal le plus lu dans les terriers, dans son numéro qui est consacré au hérisson, dit que l'animal, lorsqu'il est confronté à une nouvelle odeur, a une réaction abracadabrantesque. Il salive, une bave mousseuse dont il s'enduit entièrement. Et l'objectif de ce phénomène d'auto-lubrification intégrale reste inexpliqué. Mais on a constaté que certains hérissons apprivoisés se lubrifiaient exclusivement avec de la betterave cuite et en ressortaient complètement colorés en rouge. Bon, affaire à suivre. Donc, avant ou après une pause au Rotten Eagle, rien ne nous empêche de glisser sous l'oreiller une ou deux mélodies pleines d'effusion et belles à pleurer ou à rêver. Vous avez des idées ? J'en ai. Tenez, pourquoi pas celle-ci, ni de Brahms ni de Bruckner. C'était le mouvement lent de la sonate de Duparc pour violoncelle et piano. Il y a tant de mélodies qu'on a envie de serrer contre soi, pour reprendre les mots de Flaubert, qu'il est difficile de choisir. Mais permettez-moi une deuxième mélodie, une mélodie à mettre sous l'oreiller, me semble-t-il. C'est le duo de Barak avec sa redoutable femme, au troisième acte de La femme sans ombre de Richard Strauss, opéra scandaleusement négligé de mon point de vue. Barak le teinturier et la bonté incarnée, peut-être pas le plus raffiné ni le plus intellectuel des baryton, mais sans aucun doute le meilleur, le plus humain dans toute l'histoire de l'opéra. Écoutons cette ligne mélodique sublime.
Oh.
Brahms avait-il pris l'habitude, en revenant du hérisson rouge pour se coucher dans son appartement, dans la Karlsgasse, de mettre une mélodie effusive sous son oreiller? À part la mélodie de la Rhapsodie pour contralto, rien ne permet de le dire, à une exception près peut-être, on y reviendra. Mais rien ne permet non plus d'affirmer le contraire. L'œuvre de Brahms regorge de ses mélodies effusives dans tous les genres, dans tous les styles. On va laisser à Serge Gainsbourg le très ou trop célèbre Poco Allegretto de la 3e symphonie, dont il fit la chanson Baby Alone in Babylon, qui paraît-il est chantée par Jane Birkin. On va laisser aussi aux amateurs la tout aussi célèbre Berceuse, que vous trouvez dans tous les magasins spécialisés dans les articles pour bébés, et qui a été exécutée, vraiment exécutée, par Rino Tosi. Mais faisons un petit florilège de thèmes mélodiques candidats à l'oreiller, des thèmes très brahmsiens, la ressource est surabondante, mais surmontons l'embarras du choix. Commençons par le piano. Tiens, le thème miraculeusement simple et beau du premier intermezzo de l'opus 117. Dans la musique de chambre, on préférait ne pas avoir à choisir pour ne rien écarter. Bon, mais s'il le faut, écoutons le premier thème de l'Allegro Appassionato de la 2e sonate pour clarinette et piano. Effectivement, très passionné, mais avec quelle suavité et quelle effusion! Un concerto à présent? Eh bien, prenons le thème de l'adagio du concerto pour violon. Un admirable mouvement lent avec une mélodie poignante, mais c'est le hautbois qui l'énonce et le violon solo doit attendre plus de 2 minutes avant de pouvoir lui-même enfin entonner cette cantilène, belle à faire pleurer les cieux.
Thank you.
Brahms aimait manifestement faire attendre le soliste qui, debout face au public ou devant son clavier, si c'est un pianiste, écoute le thème sublime qui est confié à un autre instrument. Ainsi, dans l'andante du second concerto pour piano, c'est le violoncelle qui énonce le thème lyrique, contemplatif, rêveur, et le piano entre très tard dans le jeu par des arpèges et avec un discours qui est un peu décousu. Ce violoncelle qui, si j'ose dire, vole au soliste le thème et dialogue avec lui après d'égal à égal, c'est une idée que Robert Schumann avait déjà eue lorsqu'il composa le mouvement lent de son concerto pour violon. Le concerto pour violon de Schumann n'est pas très connu et il fut écrit par Schumann dans un état de grande exaltation, comme un geste fulgurant, moins de 11 jours, et il fut achevé exactement le jour de la première rencontre avec Brahms, le 1er octobre 1853. D'ailleurs, dans son journal, Schumann écrit « Concerto pour violon achevé, visite de Johannes Brahms, un génie. » Ce concerto pour violon est aussi génial, je crois, peu conforme au canon du grand concerto romantique avec des grands effets, et il fut plutôt d'ailleurs délaissé par son dédicataire. Il fut enfoui, méprisé, quasiment oublié, jusqu'à ce que dans les années 1930, se joue une course de poursuite pour la création de l'œuvre entre le régime nazi et les musiciens hors d'Allemagne, dont Yehudi Menuhin. C'est une histoire qu'on pourra se raconter un autre jour. Le mouvement lent empreint d'une joie intime, ineffable, développe une mélodie infinie qui circule entre le soliste et les différents pupitres, comme si l'œuvre était improvisée en toute liberté. Mais à l'instar du concerto pour piano de Brahms, c'est le violoncelle qui commence avant l'entrée du violon soliste. Autant le dire, c'est un parfum d'éternité rêveuse sur l'oreiller duquel on aimerait bien poser sa tête et suspendre le temps. Quelle musique ! Sur le coup de 3 heures. C'est l'heure de badiner et aujourd'hui, sur le coup de 3 heures, nous allons entamer un petit feuilleton. Clara, Robert, Johannes, Julie, aimes-tu pour la beauté, liebst du Schönheit ? C'est le thème de notre petit feuilleton. Premier épisode, c'est Clara qui ouvre le bal, liebst du Schönheit. C'est le premier vers d'un poème de Rückert que Clara Schumann mit ainsi en musique.
Thank you.
Aimes-tu pour la beauté, alors ne m'aime pas. Aime le soleil à la chevelure dorée. Aimes-tu pour la jeunesse, alors ne m'aime pas. Aime le printemps qui rajeunit chaque année. Aimes-tu pour des trésors, alors ne m'aime pas. Aime la Vierge Marine qui a tant de perles claires. Aimes-tu pour l'amour? Alors oui, aime-moi toujours, je t'aime à jamais. Petit poème pas très original, il faut le dire, mais de bonne facture, excellent pour en faire de la musique, de la très bonne musique inspirée même. Après Clara Schumann, un autre grand compositeur germanique s'en est emparé et le Lied qu'il a composé sur ce même poème a connu une impressionnante fortune, un très grand nombre d'avatars. Qui est-ce? Écoutons d'abord deux de ces avatars. L'un, comme si nous étions au Rotten-Igel à nouveau, avec quelques instruments, la clarinette, le piano, le violon, la contrebasse, dans un café de notre vieille Europe. L'autre nous transporte outre-Atlantique, dans le pays de la soul, avec une jazzwoman, Barbara Walker, qui, vous allez l'entendre, en fait vraiment un malheur.
You I nobody but you, nobody but you, nobody but you.
Poursuivrons ce petit feuilleton, M'aimes-tu pour la beauté, sur le coup de 3 heures, un prochain dimanche, selon notre humeur.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Reprenons maintenant notre vagabondage parmi les mélodies de Brahms que l'on pourrait trouver ou glisser sous l'oreiller. La grande œuvre, non pas religieuse ou liturgique, mais sacrée, profondément spirituelle de Brahms, le Requiem allemand, n'y échappe pas. Cette œuvre précède de peu la Rhapsodie pour contralto que nous écoutions tout à l'heure. Brahms avait déjà envisagé d'écrire une musique d'hommage funèbre après la mort de Schumann, 10 ans auparavant. Mais c'est après la mort de sa mère qu'il se lance dans la composition de cette œuvre. À juste titre, elle est comparée à 2 autres grands chefs-d'œuvre de 2 pères de la musique allemande des siècles précédents. Le Musicalisches Exequiem de Schütz au XVIIe siècle et puis la cantate Actus Tragicus de Bach, 2 œuvres géniales sur la mort, fondées non pas sur un texte liturgique, le texte du Requiem, mais sur un assemblage de textes bibliques. Et effectivement, le Requiem allemand, Brahms dira plus tard d'ailleurs qu'il aurait volontiers remplacé le terme allemand par humain dans son titre, donc ce Requiem est directement tiré de la fréquentation de la Bible par ce luthérien non-croyant, fréquentation quotidienne, donc c'est un patchwork d'extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais c'est surtout une méditation en musique, très personnelle, intime, mais également très humaine et universelle de ce fait. Méditation sur la nature humaine, sur la douleur, la mort bien sûr, le néant de l'existence, mais aussi la consolation et la béatitude. Méditation d'un homme qui est frappé par le deuil, celui de sa mère, mais pas d'un vieillard qui serait parvenu au terme de son existence. Au contraire, c'est une œuvre qui est écrite à mi-vie, entre 1866 et 1868. C'est un trentenaire encore très juvénile, avec une inspiration musicale, mélodique et florissante. 2 extraits avec 2 mélodies, 2 longues phrases musicales pleines de chaleur, d'effusion, presque de sensualité. D'abord le thème de la 5e partie, qui a été composé en dernier. C'est un chant de consolation, c'est la seule intervention de la soprano soliste qui est accompagnée par le chœur. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Et à présent, la phrase magnifique qui ouvre la 7e et dernière partie du Requiem allemand. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » C'est un thème chanté par le chœur, les voix aiguës d'abord, puis tous les pupitres, une immense ligne mélodique puissante, forte, mais aussi sereine, très saisissante, et on aimerait l'étreindre physiquement ou la glisser sous un oreiller. la correspondance de 15h21.
Écrème dents plâtre à la graisse du hérisson.
Oui, oui, capitaine. Certains trouvent non sans raison que le hérisson est le parent pauvre de cette émission. Allez, prenons donc la correspondance de 15h21. Elle nous conduit aujourd'hui en pleine nature et littérature. Le hérisson est un animal sensible, on l'a dit. Il est protégé d'ailleurs par l'annexe 3 de la Convention de Bâle de 1981. Qu'on se le dise, ça n'est pas un animal silencieux. C'est même assez bruyant, me semble-t-il, à défaut d'être très musical. Je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas deux. Que font-ils ? Le hérisson est un animal sympathique, sauf pour les vers de terre et les insectes dont il débarrasse les potagers, en se rendant donc très utile, voire même indispensable. Dans le roman de Renard, Espineux ou Espinard, le hérisson fait partie du clan de Renard. C'est un personnage un peu secondaire, mais il se fait remarquer par son sérieux, par le fait qu'il est toujours serviable, prompt à s'attendrir sur le sort de Renard. Il accepte par exemple d'être otage pour le comte de Renard à la cour du roi noble, le lion. Et lorsque le lion décide de pendre Renard, alors c'est lui qui va convaincre Bernard, le frère Bernard, l'âne religieux, qu'il faut aller vers le roi lui-même pour plaider la cause de Renard et pour obtenir la suspension de l'exécution de cette sentence et puis demander au roi de lui confier Renard pour en faire un moine de sa maison. Ce que le roi noble fera, et ça sera le début de nouvelles aventures et de moult papelardises. Le lien entre le renard et le hérisson est très très ancien, dans des ouvrages très récents, comme celui d'Isaiah Berlin, le renard et le hérisson, mais il est aussi dans un aphorisme qui a plus de 2000 ans, d'Archiloque. Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson c'est une grande chose. Voilà, c'est à méditer, je n'ai pas toujours bien compris qu'est-ce que ça signifie, moi. N'en perdez pas le sommeil. Puis il y a aussi une fable de La Fontaine, le renard, les mouches et le hérisson.
Aux traces de son sang, un vieux hôte des bois, renard fin, subtil et matois, blessé par des chasseurs et tombé dans la fange, autrefois attira ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Il accusait les dieux et trouvait fort étrange que le sort à tel point le voulût affliger et le fit aux mouches manger. Quoi ? Se jeter sur moi le plus habile de tous les hôtes des forêts ? Depuis quand les renards sont-ils ainsi bons mets ? Et que me sert ma queue ? Est-ce un poids inutile ? Va ! Le ciel te confonde, animal importun. Que ne vis-tu sur le commun ? Un hérisson du voisinage, dans mes vers nouveau personnage, voulut le délivrer de l'importunité du peuple plein d'avidité. Je les vais de mes dards enfilés par centaines, voisin renard, dit-il, et terminer tes peines. Garde-t'en bien, dit l'autre. Ami, ne le fais pas. Laisse-les, je te prie, achever leur repas. Ces animaux sont saouls. Une troupe nouvelle viendrait fondre sur moi, plus âpre et plus cruelle. Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas. Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats. Aristote appliquait cet apologue aux hommes. Les exemples en sont communs, surtout au pays où nous sommes. Plus tels gens sont pleins, moins ils sont importuns.
Voilà qui est dit. Gageons que le monde a changé un tout petit peu quand même, voire même du tout au tout, je l'espère, depuis l'époque et les circonstances qui ont inspiré cette fable à Jean de La Fontaine. Nous tâcherons de ne pas rater la correspondance de 15h21 dimanche prochain.
Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Pour terminer notre promenade musicale sous l'oreiller brahmsien, prenons-en une, prenons-en deux, deux mélodies. Deux thèmes mélodiques, l'un sur un texte religieux, spirituel, l'autre sur une mélodie pimpante et aussi très spirituelle d'ailleurs. D'abord, la mélodie centrale du quatrième des chants sérieux, avec les 11 préludes pour orgue, c'est la dernière œuvre de Brahms. Elle est achevée le 7 mai 1896, le jour de ses 63 ans, juste avant d'apprendre la mort de Clara et 11 mois avant sa propre mort. Sur des textes de la Bible, les quatre chants sérieux pour voix grave et piano sont en quelque sorte un second requiem allemand en réduction, aussi libre de ton que le requiem allemand lui-même 30 ans plus tôt. Comme pour la mélodie de la Rhapsodie pour alto, Brahms n'en revient pas de la beauté de la ligne mélodique que l'inspiration lui a donné d'écrire sur les paroles. Mais l'amour est la plus grande des vertus. Voilà, et c'est peut-être la deuxième mélodie dont on pourrait être sûr qu'il a glissé sous son oreiller. On va entendre cette mélodie au piano, seule, d'abord, extrait d'un très beau disque de Igor Levit, puis cette même phrase sublime par Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnée par Jörg Demus. Allez, une dernière mélodie pour la route. La première du bouquet de Lieder de l'opus 105 de Brahms, qui a été composé au bord de l'Axe Helvétique 10 ans plus tôt. Wie melodientit es, une mélodie sur les mélodies, une mélodie sur les pensées qui, avant même qu'elles soient formulées, sont comme des mélodies bien doucement. Cela traverse mon esprit, cela fleurit comme une fleur printanière, ça s'exhale comme un parfum.
Es mir leise durch den Sinn, wie Frühlingsblumen blüht es und schwebt wie Duft dahin. Und schwebt wie Duft dahin. Doch kommt das Wort und im Reibe verborgen wohl
L'émission se termine, Brahms, son oreiller et le hérisson rouge. J'allais dire que nous avions à peine effleuré le sujet, ce qui est un peu dangereux. Disons que nous l'avons juste survolé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, troisième dimanche du mois, consacré à la vie pratique, à la vie quotidienne. Et en ces derniers jours de l'été, notre thème sera « Buvons-en un, buvons-en deux ». Buvons quoi ? Je n'ai pas la réponse. Je suis pas du tout informé à ce jour. Buvons-en un, buvons-en deux. Il nous reste donc une semaine pour nous entraîner avec modération. Cela va sans dire. Vous trouverez toutes les références musicales, la réécoute, le podcast de l'émission d'aujourd'hui et de celles qui l'ont précédée sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique. Avec moi aujourd'hui pour cette émission, rien moins que Cédric Châtelut à la technique, Laurent Lefrançois à la réalisation et bien sûr Nelly Portal. Grand merci aussi à Coco Bonnier, elle était tout à l'heure le renard, le hérisson et tout simplement la voix de Jean de La Fontaine lui-même, quel talent. Très bonne semaine sur France Musique et dans moins d'une minute ce sera Brut d'accordéon avec Félicien Bru lui-même en personne.
À réécouter sur francemusique.fr.